Gloire à Dieu. Nous allons commencer notre culte, frères et sœurs. Restez debout encore pour adorer, pour bénir le Seigneur. Nous le commençons et nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent également. Et nous voulons commencer avec la lecture du psaume 63, un psaume de David. Lorsque David était dans le désert de Juda, il disait ceci en son Seigneur. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans ton sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. »
Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, wow. Jésus, je te suivrai.
On le déclare, car tu es mort. peuvent l'applaudir ce matin dans ce lieu. Ouais, Jésus, on veut proclamer ce matin que son amour est plus grand, au-delà de nos doutes, au-delà de nos échecs, de nos peurs. Son amour est plus grand pour nous porter encore ce matin. Et puis si c'est ton cas, que tu es dans les doutes, les peurs, les craintes ce matin, il peut te saisir encore. Il peut te remplir de son amour et c'est ce qu'on veut déclarer par ce chant. Alors chante-le comme une prière si c'est ton cas ce matin.
que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand.
Mon Père, ton amour est plus grand que nos soucis, plus grand que nos difficultés. Quelles que soient nos circonstances, ô Éternel, tu es avec nous. Sois glorifié en ce lieu, sois béni, ô Éternel. Entends la prière du cœur de ton peuple. Entends la prière de ton peuple qui t'adore, qui t'élève ce matin. Sois exalté, Père, sois loué, sois élevé en ce lieu. Béni sois-tu, roi des cieux. Que toute la gloire te revienne en ce lieu. Que toute la gloire te revienne. Alléluia, ô toi le grand Dieu. Sois exalté, Père, sois béni.
Je songe que tu m'as fait.
célébrer ce matin dans ce lieu. En déclarant gloire à Dieu, c'est ce que signifie Alléluia. Gloire à l'Éternel, celui qui siège sur son trône, on va le célébrer ce matin. Alléluia, comme une grande chorale, on va proclamer tous ensemble Alléluia. À élever les voix tous ensemble pour glorifier, célébrer celui qui est mort à la croix, celui qui est ressuscité, celui qui est vivant, celui qui a les regards fixés sur chacun d'entre nous, celui qui a promis de ne jamais nous abandonner, celui qui a promis d'être à nos côtés. On veut te célébrer ce matin dans ce lieu. Tu es digne, Jésus, de l'adoration de nos cœurs. On veut te célébrer, Père éternel. Merci parce que même si tout s'effondre autour de nous, notre Dieu demeure sur son trône. Il est le Dieu stable, il est le Dieu solide, celui en qui on peut mettre toute notre confiance ce matin. À toi la gloire et la louange ce matin, Père éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, tel qu'on est ce matin, on veut s'approcher de toi. Par prendre ce cantique que vous connaissez, tel que je suis. Que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. C'est le seul mérite qu'on peut afficher ce matin, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Pas ce que nous pouvons faire pour lui, mais ce que lui a fait pour nous en donnant sa vie à la croix. C'est la seule chose qu'on peut afficher devant le ciel ce matin, tel que je suis.
Qui m'appelle à toi.
Le plus important, c'est toi qui l'as marqué, Seigneur, en venant donner le point que personne ne pouvait marquer. Tu as offert ta vie, Jésus. Tu as offert ta vie pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Et c'est toi que nous voulons élever, célébrer, Père, parce que nous sommes au bénéfice d'un amour puissant, d'un amour grand, d'un amour qui dépasse notre entendement encore ce matin, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom pour le jour où tu es venu nous chercher. Le jour où tes regards se sont fixés sur nous. Lorsqu'on ne pensait pas à toi, toi tu pensais déjà à nous, Seigneur. Quelle grâce et quel privilège d'être appelé enfant de Dieu ce matin, de t'appartenir éternel. À toi la gloire et la louange dans ce lieu. Amen. 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 L'épi, ce n'est pas que des moments comme celui-ci, mais c'est chaque semaine des rencontres en semaine. Alors si vous voulez connecter par quartier, par groupe d'affinité, n'hésitez pas à aller au point accueil à la fin de cette célébration. Puis vous aurez toutes les infos que vous avez besoin. Si vous voulez prolonger, poursuivre ce qu'on vit les dimanches matins, on peut le vivre aussi en petits groupes. On peut prier les uns pour les autres, s'encourager, parce que c'est ça l'évangile. C'est un peuple qui se soutient, un peuple qui s'encourage, un peuple qui fait la différence dans la vie de celui ou celle qui est autour de lui. Amen. Amen. Je vais laisser aussi la place à Jacques pour une petite annonce concernant le refuge. Pour les plus anciens, vous connaissez le centre de vacances dans les Vosges. Et Jacques, on va te laisser faire la petite annonce.
Voilà, bonjour à tous. Donc juste une petite annonce, puisque l'épi, c'est aussi faire la transition entre le passé, l'ancien et le nouveau. Alors pour la jeune génération qui ne connaît pas, et pour l'ancienne génération qui connaît. Donc le refuge, donc fête son jubilé. Le jeudi 15 août, il fête son jubilé, 50 ans d'existence. Et donc, j'y étais la semaine dernière et ils m'ont chargé de vous le dire, parce que l'EPI aussi, avec l'église de Saint-Dié, ont été les deux pourvoyeurs en matière financière pour justement la construction, la croissance du refuge. Donc, et à cette occasion, donc, pour les anciens qui veulent se retrouver, et puis pour la nouvelle génération qui ne connaît pas aussi et qui voudrait savoir ce que c'est, donc vous êtes invités le jeudi 15 août à partir de 15h dans l'après-midi. Alors il y a grand barbecue. Donc il suffit juste d'appeler le refuge, dire je serai présent avec deux, trois. C'est lui qui a la charge. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est une lumière sur mon sentier? Une lumière qui éclaire. Voilà, alors en ce matin, c'est ce qui va se passer. Seigneur, nous te bénissons pour notre frère. Nous te prions que toute l'onction de ton esprit soit sur lui. Nous prions pour que la parole qu'il va annoncer, eh bien, vienne.
Amen. Merci Jacques pour le soutien. Merci pour vos prières. Content d'être avec vous. On continue la série qu'on a commencé la semaine dernière sur les prières de Jésus. Combien pensent que prier, c'est important? Normalement, toutes les mains devraient se lever. Combien pensent que prier comme Jésus, c'est aussi important? Yes? S'il y a bien un exemple à suivre, je pense que c'est le sien. On va voir ensemble un des moments de prière où Jésus a certainement vécu un des plus grands combats spirituels. Peut-être vous le savez, mais c'est Jésus à Gethsémané. Jésus à Gethsémané où il va vivre un des plus grands combats spirituels, où il va se sentir oppressé, attaqué, ou même, ça dit qu'il va suer des grumeaux de sang. Combat intense, quelque chose je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a vécu ça dans sa vie, mais Jésus va vivre un moment super intense dans la prière. J'ai vu une citation d'un théologien, ça ne va pas s'afficher, mais je vais juste vous la résumer. Il disait que Jésus, dans les évangiles, quand on traverse les quatre évangiles, on s'aperçoit qu'il a vécu 3-4 moments super impressionnants par rapport au fait d'entendre Dieu audiblement. À son baptême, où ils vont entendre la voix de Dieu du ciel, la voix de son Père du ciel, la transfiguration, puis un moment aussi juste avant la croix. Mais il va dire une chose intéressante, il va dire la plupart du temps, hormis ces passages-là, Jésus avait une vie de prière comme vous et moi. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, parfait, sans péché, avait quand même besoin d'aller rechercher courage, force, paix, grâce auprès de son Père. Et c'est pour ça que Jésus est le meilleur exemple à suivre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est comme nous. Par rapport à ça, il a dû puiser sa force, même s'il était Dieu, son côté humain faisait qu'il devait puiser sa force dans les bras de son Père. Et avant de rentrer dans le passage, juste quelques petites notions de contexte. Moi, j'aime bien juste voir qu'est-ce qui se passe avant. Pourquoi Jésus se sent comme ça? Voici quelques points très intéressants sur qu'est-ce qui se passe juste avant Gethsémané. Jésus passe la dernière nuit en liberté avec ses disciples. Dernière nuit. Juste après ça, il va se faire arrêter. Il vient d'instaurer le repas de la scène qui annonce sa mort. Moment important pour lui aussi. Il vient de dire à ses disciples que l'un d'entre eux va le trahir. Imaginez-vous l'ambiance. Tous ses disciples qui vont promettre fidélité, il a dit « Ouais, mais en fait, il y en a un d'entre vous qui va me trahir. Et c'est à cause de lui que je vais être amené devant les Romains puis jugé par les pharisiens et Pilate. » Il vient de dire à Pierre qu'il le reniera 3 fois. Tout ça dans la même soirée. Il sait que dans quelques heures, il va se faire arrêter pour vivre les 12 dernières heures de sa vie. Mais tout va à sa place. Sachant tout ça dans sa tête, il va vivre les 12 dernières heures de sa vie avec les fouets, les insultes, l'abandon, la couronne d'épines, les clous, la mort et tout ce qui va se passer, toute la souffrance spirituelle, émotionnelle et physique qu'il va vivre. Mettez-vous à la place de Jésus. En fait, c'est impossible de se mettre à sa place. On ne peut pas comprendre à quel point, à l'intérieur, il devait y avoir de la peur, des doutes. Il devait même peut-être y avoir de la colère envers Dieu, en le voir ensemble, envers son Père. Je pense qu'il y a mieux comme contexte pour aller mieux. Vous ne trouvez pas? Je pense qu'il a vécu des meilleures soirées que ça, à mon avis. Première fois que Jésus va exprimer de cette manière ses doutes et ses peurs concernant la volonté de son Père. La première fois. Et on va voir que Jésus va plaider auprès de son Père. On va analyser en 2 parties. Premièrement, on va voir comment Jésus priait. C'est quoi les différents éléments dans sa prière? Dans quel contexte? Comment il a prié? Qu'est-ce qu'il a prié? Et deuxièmement, on va voir, est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que la prière, est-ce que ce moment de prière de Jésus a changé des choses? Est-ce que cette prière a amené des fruits visibles? On va voir ensemble. Donc premièrement, comment Jésus a prié? Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, donc juste après tout ce qui vient de se passer, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané, qui veut dire pressoir à huile. Donc c'est juste une image pour dire qu'il va être, oppressé à ce moment-là. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. C'est super intéressant, on pourrait analyser chez vous, si vous faites une étude de Gethsémané, le moment de prière, Jésus vient mettre littéralement en pratique le Notre Père. Premièrement, il va se mettre à l'écart. En fait, il va aller dans sa chambre, et il va fermer la porte, et il va passer un moment intime avec son Père. Et les différents éléments qu'on va voir ensuite, il met aussi en pratique le Notre Père. Donc premièrement, il va se mettre à l'écart. Gethsémané, l'évangile nous dit que c'est un endroit où, possiblement, il avait l'habitude d'aller.
Et ça, c'est confirmé avec le fait que Judas savait où était Jésus à ce moment-là. Donc, il connaissait l'endroit. Donc, c'est certainement un endroit où ils avaient l'habitude d'aller avec ses disciples, soit pour prier, soit pour discuter, soit en tout cas pour passer des moments intimes à l'écart de la foule. Et là, Jésus, c'est un peu sa chambre. C'est sa chambre de prière, là où il va parler à Dieu, là où il va parler à son Père. Et la question se pose pour nous, quelle est notre chambre ? Je ne sais pas si tu as déjà trouvé ta chambre, que ce soit chez toi, dehors. Tu sais, on parle d'une chambre, mais ce n'est pas forcément une pièce. Un endroit où tu peux te mettre à l'écart, où tu sais que tu vas pouvoir fermer toutes les portes qui peuvent te distraire dans les moments de prière. Moi, je prie dans ma cuisine. Ma cuisine, c'est ma chambre. Je tourne autour de la table, comme ça je marche, sinon je m'endors. Il ne faut pas que je m'assieds le matin. J'essaie de me lever un peu plus tôt que mes filles. Du coup, si je m'assieds, ça m'est arrivé tellement de fois où au début, tu es assis, et après, tu te mets sur les coudes, et après, tu te retrouves allongé avec la Bible. Et là, tu lis Lévitique, et là, tu dors en fait, tu te réveilles, et en fait, c'est tes filles qui te réveillent parce que tu t'es endormi depuis une heure. Tu dis, ok, bon, il faut. Alors, du coup, je marche, je prends mon café, je marche, et je prie comme si j'allais à la guerre. Et c'est ça qui me tient éveillé. Mais chacun sa technique, chacun sa chambre. Mais aussi, est-ce que tu as identifié les portes à fermer ? Les portes à fermer pour pas être distrait. Moi, je les ai identifiées, les quatre plus grandes portes. Il y en a qui sont logiques, il y en a que vous avez trouvé drôle, je pense. La première porte, forcément, c'est le téléphone. Ça, faut pas que je l'aie à côté de moi pendant que je prie. Qui a déjà vécu le moment où tu vas aux toilettes avec ton téléphone et avec Internet et tu dis, ok, je vais aller aux toilettes, ça va durer 3 minutes. Et en fait, tu es là, tu te retrouves, ça fait 30 minutes, tu y es. C'est horrible le téléphone. C'est horrible. Tu peux tout faire avec. Tu peux répondre à tes mails, tu peux discuter, tu peux lire la Bible, c'est vrai. Oui, tu peux écouter de la louange, c'est vrai. Mais pour moi, en tout cas, c'est une porte à fermer. Parfois, je m'en sers pour, voilà, je mets un petit peu d'instrumental, de louange, etc. Mais c'est une porte à fermer. Deuxième porte à fermer, vous allez trouver ça drôle. Les fenêtres. Mais mes collègues pourront me dire, souvent, quand on est en staff et qu'il y a une voiture qui fait du bruit dehors, je suis tout de suite attiré, puis je regarde à la fenêtre, qu'est-ce qui se passe ? Puis nous, quand on travaille dans les staffs, on entend tout. Il y a des gens qui parlent fort sur le trottoir, on entend. Et moi, je suis très sensible au bruit, puis j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et du coup, quand je prie, j'essaie de pas marcher près des fenêtres, parce que je sais que mon attention peut être déstabilisée rapidement. C'est mes portes à moi. Mes pensées, je pense que ça, c'est pour tout le monde. Les pensées, là, pour les garder, pour fermer ses pensées et juste les rendre concentrés sur Jésus, c'est super dur. Et ce que je fais souvent, c'est que je commence par parler en langue. Parce que parler en langue, ça me concentre sur Dieu. Chacun sa technique. Ou sinon, la dernière porte à fermer, la fatigue. Pour ça, il faut dormir. Donc il faut se coucher tôt si vous voulez vous lever tôt. C'est un conseil basique. Et ça joue énormément sur la santé également. Mais combien de fois je me suis endormi en priant ? Enfin, en fait, je ne priais pas, j'ai juste dormi. Combien de fois ça m'est arrivé ? C'est à chacun d'entre nous d'identifier c'est quoi le meilleur moyen pour se mettre à l'écart. Et c'est quoi les portes à fermer ? Jésus l'avait. Jésus, il s'est avancé de quelques pas. Donc, il a pris ses disciples, il a pris les trois plus intimes et il s'est encore mis à l'écart par la suite. Il a identifié les portes à fermer. On doit faire de même. Deuxièmement, il a été vulnérable avec ses amis. Vulnérable. Matthieu 26, 37, 38. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. Jésus, le fils de Dieu, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, Jésus sans péché, Jésus tout puissant, a besoin de ses amis. On peut juste s'arrêter un instant et juste réfléchir à ça. Jésus, qui a toute autorité, qui peut pardonner tous les péchés, Jésus a besoin de ses amis. Puis en plus, ses amis, c'est ceux qui vont l'abandonner après. C'est pas les meilleurs amis du monde à ce moment-là. Jésus a besoin de ses amis. Puis ça, si on veut faire un parallèle avec nous, si Jésus a eu besoin d'être vulnérable, a eu besoin de s'humilier, parce que quand tu montres que tu es faible, tu t'humilies. C'est ça l'humilité, c'est faire preuve que mais j'ai besoin d'aide. Jésus qui s'humilie, si Jésus a eu besoin de faire ça, est-ce qu'on n'aurait pas besoin aussi un petit peu inférieur à Jésus quand même? On est quand même un petit peu inférieur à Jésus, je trouve. Vous ne trouvez pas? Un petit peu. On n'est pas Dieu. Jésus a eu besoin de s'humilier puis de se rendre vulnérable par rapport à ses amis. Alors, est-ce qu'on pourrait pas, est-ce qu'on devrait pas faire la même chose? C'est une question à se poser. Est-ce que j'ai des amis? Admettons, tu traverses un moment difficile. Admettons, tu as besoin que un peu comme tu, tu vas vivre une opération le lendemain, puis la veille au soir, on n'aime pas être tout seul dans sa chambre parce qu'on a peur, on a juste besoin d'avoir une présence des fois. Jésus vit la même chose là, il sait que le lendemain, ben, y a la croix qui arrive. Il sait que c'est les 12 dernières heures de sa vie. Et là, il dit, OK, j'ai besoin d'être entouré. J'ai besoin, oui, de prier, mais j'ai aussi besoin d'être entouré par mes amis. Et est-ce que tu as des amis comme ça sur qui tu peux compter? C'est une question tellement importante à se poser. Il y a trop de gens que j'ai rencontrés qui sont seuls. Besoin de sentir que je ne suis pas seul. Et une fois que tu as trouvé ces amis, après, c'est à toi d'être vulnérable. Trop de fois, j'ai fait semblant d'aller bien avec mes amis. De fois, et en fait, ça sert à rien parce qu'en fait, être vulnérable, ça va créer deux choses qui sont super bonnes. Premièrement, ça va créer de l'humilité. Ça fait mal à l'orgueil quand tu dis que j'ai besoin d'aide. Ça fait très mal à l'orgueil parce que l'orgueil, c'est mais non, tu peux t'en sortir tout seul. T'inquiète pas, t'as pas besoin d'eux, tu peux t'en sortir tout seul. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai besoin de mes amis. Oui, je suis Dieu, oui, je vais mourir à la croix et je vais sauver tous ceux qui vont mettre leur foi en moi. Mais là, à ce moment-là, là maintenant, j'ai peur. Mon âme est triste à en mourir. Si ça, ce n'est pas de la vulnérabilité. Et puis deuxièmement, ça va créer quoi la vulnérabilité? Ça va créer de l'aide, tout simplement. Dire ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Si tu as des amis qui tu as confiance, alors ils vont t'aider, alors ils vont te soutenir. Hier, j'ai dit à ma belle-mère que je prêchais ce matin, puis elle m'a juste dit, ah ben tu sais quoi, tu vas prêcher, moi je vais prier pour toi. Et juste ça, le fait de, ok, je me sens soutenu, il y a quelqu'un qui prie pour moi. Priez pour nous d'ailleurs, on a besoin quand on prêche, ça fait toujours un petit... On a l'air décontracté, mais on a besoin de prière. On a besoin de prière, pas juste pour nous, mais pour que la parole ait aussi un impact dans les cœurs, parce qu'on prêche pour ça. La vulnérabilité, ça crée l'humilité et ça crée un soutien. Jésus a été vulnérable et nous encourage à l'être. Troisièmement, Jésus, dans sa prière, il a été authentique avec Dieu. Authentique. Matthieu 26, verset 39. Puis il avança de quelques pas, là il se met encore un peu plus à l'écart, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On pourrait faire une série juste sur ce verset. Il y a tellement de détails qui sont importants dans ce que Jésus dit ici. Premièrement, il y a la posture. Il se jeta face contre terre. Littéralement, dans le grec, c'est « il se prosterna ». Jésus se prosterne. Dans toute sa vie, c'est les autres qui se prosternaient devant lui pour venir plaider auprès de Jésus, pour avoir la guérison, pour une réponse à une prière, pour une providence, pour être délivré. Pour toute sa vie, les gens sont venus pour plaider auprès de Jésus en s'agenouillant, en se jetant face contre terre. Et là, pour la première fois de sa vie, c'est Jésus qui se prosterne. Jésus se prosterne face à son Père. Et la posture montre qu'il veut plaider. Qui veut avoir une faveur, qui veut obtenir quelque chose. Et en plus, c'est super intéressant quand on lit les premiers mots. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, il se jeta le visage contre terre et fit ses prières. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il n'y a pas de politiquement correct ici. Il ne commence pas par louer Dieu. Il ne commence pas par louer son Père. Il ne commence pas par le remercier. Non, il demande une faveur directe. Ça montre quoi? Ça montre juste l'urgence de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a un détail super important qui peut encore nous amener des éléments sur comment Jésus se sent. Il va dire, on revient en verset 38, « Mon âme est triste à en mourir. » Et plusieurs théologiens vont dire que cette expression « Mon âme est triste à en mourir » fait directement référence à un psaume, le psaume 42. Et je vous propose juste de le lire. Parce que des fois, ça peut nous aider à comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de traverser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans son cœur? Psaume 42, versets 2 à 12. C'est assez long, mais c'est super intéressant pour voir ce qui se passe. « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et là, j'arrête juste deux secondes. Moi, juste après, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Voici comment il sent. « Où mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Il n'y a rien de beau là-dedans, il est en train de souffrir. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Moi, ça me fait penser quand il rentre dans Jérusalem, avec les cris, Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Là, il y a toute la foule qui l'adorait, il était bien, même si après il les a remis en place quand il est rentré dans le temple. Mais il y avait des cris de joie, mais là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. « pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi, espérant Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et là, il essaie de juste se remotiver. Mais non, mais mon Père, c'est ça mon bien. Mon âme est abattue en moi aussi. C'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzer. Vague, l'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Là, il est en train de dire toute ta colère, toute ta haine, mon Dieu, mon Père, t'es en train de l'abattre sur moi. C'est comme ça qu'il se sent. C'est comme ça qu'il se sent. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent. Écoutez la puissance des mots. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà cassé un membre de votre corps. Moi, je me suis déjà cassé le poignet et puis une partie de mon genou. Ça fait mal quand tu sens le craquement. Jésus, il dit, à chaque fois qu'on m'insulte, c'est comme s'il y a un de mes os qui brisait. Il a mal. Où est ton Dieu? Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Voici l'intérieur de Jésus. Est-ce que vous pensez qu'il va bien? Il a mal. Il se sent seul. Il a l'impression que Dieu détourne le regard de lui. Puis ça va juste durer jusqu'à la croix. Vous vous souvenez des paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voici comment Jésus se sent. Puis la posture, justement, nous amène à voir qu'il est en train de plaider. Cette coupe, plusieurs théologiens, encore une fois, vont dire que dans l'Ancien Testament, la coupe était tout le temps associée à la souffrance ou à la colère de Dieu. Boire la coupe de la colère de Dieu. Ce n'est pas agréable. Et d'ailleurs, il va dire à ses disciples quelques chapitres auparavant, est-ce que vous pouvez boire la colère, la coupe que je vais boire? Et ils vont dire, oui, on peut, alors qu'ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Et il va dire, oui, c'est vrai que vous la boirez, parce que quand on voit comment ils vont finir, oui. Mais à ce moment-là, Jésus ne veut pas la boire, cette coupe. Il ne veut pas la boire. Il demande à ce que la souffrance s'éloigne. Puis la question se pose, je me suis posé ces questions, est-ce que à ce moment-là, Jésus refuse de mourir pour l'humanité? Je me suis posé la question, que cette coupe s'éloigne de moi. Il y a tout un débat sur, ok, cette coupe c'est la souffrance, c'est aussi la colère de Dieu, mais est-ce que cette coupe s'englobe le fait de mourir pour les péchés des pécheurs? Je pense pas, parce que quand on regarde l'ensemble des évangiles, on s'aperçoit que Jésus, il le dit clairement, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je meure pour un grand nombre, c'est que je meure à la croix pour pardonner les péchés, pour que les pécheurs puissent reconnecter avec Dieu. Je crois plutôt, comme le dit le théologien Léon Maurice, qui a écrit un commentaire sur l'évangile de Matthieu, je crois plutôt que cette coupe et puis la demande de Jésus, ça veut dire ça. L'expression est conforme au plan divin. Une autre manière de le dire, le théologien RT France, qui a aussi écrit un commentaire sur Matthieu, la question n'est pas de savoir si Jésus doit ou non accepter le dessein du Père, mais si ce dessein doit inclure la coupe horrifiante de la souffrance par procuration. Parce que toute cette souffrance, c'est à cause de nous qu'il l'a pris. Ou s'il existe un autre moyen. D'où le mélange remarquable dans ce verset d'une demande claire et de l'acceptation du fait que cette demande pourrait ne pas être exaucée. Un mélange qui pourrait bien être imité dans une grande partie de notre prière, avec ces demandes souvent préremptoires. La seule question qui importe est de savoir quelles sont les limites de la volonté de Dieu. La prière de Jésus est une exploration de ses limites, mais ne tente jamais de les dépasser. Je ne sais pas vous, mais quand je comprends ça, je trouve ça tellement rassurant. Qui aime souffrir ici? À main levée. Je ne vais pas la lever parce qu'on va me prendre pour un fou. Qui aime souffrir? Personne. Ben vous savez quoi? Jésus non plus. Jésus négocie avec Dieu. Jésus plaide auprès de Dieu pour savoir, auprès de son Père, pour savoir si c'est possible d'éviter toute cette partie de souffrance. Il est là pour mourir. Il est là pour payer, pour pardonner. Mais il essaye de voir, ok, parce que c'est quand même un chemin douloureux là qui m'attend. Et il y a son côté humain qui essaie de négocier et voir, ok, est-ce que dans ta volonté, mon Père, est-ce que c'est possible d'éviter une partie de la souffrance qui m'attend? Jésus n'aimait pas souffrir. Et je pense que même Dieu n'aime pas souffrir. Par contre, ils aiment le fruit qui est associé aux souffrances qu'on peut vivre. Le fruit qui peut ressortir aux souffrances qu'on peut vivre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous comprend du coup. Quand on demande, ok, Seigneur, dans ta volonté, est-ce que je pourrais juste ne pas vivre cette souffrance-là? Est-ce que je pourrais juste éviter de passer par ce chemin qui est extrêmement douloureux? C'est quoi? Et c'est bon de prier ça. Jésus l'a fait. Et je pense que c'est tellement là que Dieu nous attend aussi. Il était écrit comme un psaume. Il n'était plus capable de prier, donc il a écrit. Puis voici ce qu'il a écrit comme psaume. Ça va s'afficher. Seigneur, pour être honnête, j'attends toujours ton réconfort. La souffrance, je vois, ok. Et là, j'ai un petit peu insisté, je fais, est-ce que vous pensez que Dieu était en colère? Et là, il y a un jeune qui arrive et fait, bah oui, c'est sûr. Et là, je fais, ok. Et là, je suis retourné à mes notes et je fais, j'aimerais juste vous dire que ce passant en question, c'est moi. Et là, ils ont baissé la tête. Ils ont dit, bon, toi, t'as le droit, mais... C'est moi qui ai écrit ça il y a quelques années. Et je leur ai dit après, puis je vous le dis, puis je me le répète. C'est en faisant ce genre de prière que j'ai réussi à rester accroché à Dieu dans ma souffrance. C'est en étant authentique avec Dieu. J'ai pas fait semblant d'aller bien là, parce que j'allais pas bien. J'arrivais même plus à prier avec des mots. Du coup, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit. C'était le seul moyen de communication que j'arrivais à établir avec Dieu. C'était d'écrire ça. Et Jésus m'encourage à le faire. Jésus m'encourage à le faire. Que cette coupe s'éloigne de moi. C'est exactement ce que j'ai prié. Et c'était contre-culturel, même pour l'époque. Craig Kinner, un spécialiste du contexte juif, explique que les lecteurs juifs considéraient comme vertueux le fait d'applaudir la volonté de Dieu, même au détriment de soi-même. Mais c'était beaucoup d'apparence. C'était « Ah, oui, je vais beaucoup souffrir, mais c'est pour Dieu, puis on fait semblant d'aller bien. » Jésus, il n'est pas du tout comme ça. Jésus dit « Non, moi j'aimerais éviter ça en fait. J'ai pas envie de souffrir. » Par contre, l'autre, il reconnaît qu'il est pourri, que c'est un pécheur qui ne mérite rien, et Jésus va dire « Celui qui est reparti justifié, c'est le collecteur d'impôts. C'est celui qui s'est humilié. » Je pense que Dieu nous attend dans notre, ce que ma femme appelle la pièce sombre, ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai une théorie. Okay, c'est pas des théologiens qui ont dit ça, mais j'ai une théorie. Je pense que Jonas, je pense qu'on connaît tous l'histoire de Jonas, le prophète Jonas, qui Dieu l'appelle, lui dit « Va à Ninive, la grande ville méchante, prêche la repentance parce qu'ils font n'importe quoi, sinon je vais les tuer. » En gros, c'est ça. Et Jonas, ce qu'il fait, c'est qu'il ne répond même pas à Dieu, il va à l'opposé. Voici ma théorie. Si Jonas, quand Dieu lui dit ça, si Jonas avait été juste auprès de Dieu et dit « Hey, Seigneur, j'ai pas envie d'y aller. Je veux pas parce qu'en fait, je les aime pas. Ils ont fait souffrir mon peuple, ils sont méchants, j'ai pas envie que tu leur fasses grâce. » Parce qu'à la fin du livre, on apprend qu'en fait, il voulait pas y aller à cause de ça. Mais il l'a jamais dit à Dieu. Il l'a jamais dit. À la fin, il va dire « Seigneur, je le savais que tu es un Dieu qui fait grâce, compassion, et en gros, je voulais pas y aller à cause de ça. » Mais s'il l'avait dit au début, s'il avait plaidé auprès de Dieu en disant « Hey, j'ai pas envie de boire cette coupe. » Voici ce que je dis. C'est une théorie. J'ai rencontré un jeune quand j'étais au Québec. Je commençais le pastorat, puis j'ai eu comme une rencontre pastorale avec lui. Il allait pas bien, il venait de perdre son père, il avait raté ses examens, il était au fond du trou, puis il avait besoin de parler. Et je parle avec lui, on discute 30-40 minutes, et en fait, il montre que, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il a envie de rester politiquement correct avec Dieu. Il a pas envie de dire qu'il est en colère contre lui, il a pas envie de dire qu'il lui en veut, il se remet lui en question. Et du coup, on discute, et puis tu voyais qu'il portait un masque de « Ouais, mais je suis là pour applaudir la volonté de Dieu », entre guillemets. Il dit « J'ai des pourquoi, j'ai des réponses que j'ai pas, des pourquoi, mais voilà, c'est je garde le cap. » Et à la fin, je lui dis « Écoute, je vais te donner un conseil. Si t'es en colère contre Dieu, il faut que tu lui dises. » Je fais « Si tu bloques toutes les émotions que t'as et tu les déverses jamais, tu vas toujours faire semblant, tu vas toujours porter un masque devant Dieu. Et Dieu, je pense que si, même si tu lui dis des paroles, que toi, tu pourrais voir comme étant blessante, je ne pense pas qu'il va tomber de son trône. Je pense que c'est un grand garçon. Je pense qu'il sera capable de recevoir tout ce que tu ressens. Imaginez-vous, là, le psaume qu'on a lu, Jésus, si le Père était susceptible, il ne serait plus Dieu. Je pense qu'il est capable de recevoir tout ce qu'on ressent. Je pense qu'il n'a pas été outré par rapport aux prières de Jésus. Je pense plutôt qu'il avait des larmes. Qu'il disait, oui, je sais, c'est dur. Mais reste accroché à moi. Je pense que c'est ça qu'il y avait sur son cœur à ce moment-là. Puis Jésus le savait, mais c'est son côté humain qui combattait avec ça. Philippe Yancey, un auteur chrétien que j'apprécie beaucoup, qui a écrit énormément de livres, c'est un auteur, je vous le recommande, Philippe Yancey, qui était journaliste pour un site chrétien. Par rapport à ce passage-là, il va dire « Ce récit de Gethsémané m'encourage à commencer toutes mes prières par « S'il est possible » et les terminer toujours par « Mais que ta volonté soit faite ». Et en fait, il dit ça pour pour juste exprimer, bah, si je veux être authentique avec Dieu, si je veux être vrai tout le temps, il faut toujours que j'amène ce qu'il y a au fond de mon cœur, s'il est possible d'aller plaider auprès de Dieu. Puis lui, il va dire même lutter avec Dieu, un peu comme Jacob qui lutte avec Dieu. Et en fait, théologiquement, il lutte avec Dieu parce qu'il a compris qu'il y a juste Dieu qui peut le bénir. Et c'est pour ça qu'il lutte. Et au final, il obtient sa bénédiction. Il a reconnu que c'est pas par rapport à son mariage, c'est pas par rapport aux richesses qui peut être béni, c'est juste Dieu qui prend soin de lui. Et la faveur de Dieu, elle est juste en Dieu. Et je pense qu'on a besoin juste de retourner à cette authenticité de « Ok, j'ai ça dans mon cœur, je vais premièrement l'amener auprès de Dieu. » Jésus sait exactement tout ce qu'on traverse. Il a ressenti à la croix. Jésus a prié de manière authentique. Et pas juste une fois, mais plusieurs fois. Il l'a répété trois fois, mais ça a certainement duré plusieurs heures. Le chiffre 3, il est symbolique ici. Et ça fait certainement référence aux trois réunions de Pierre aussi. Mais il a persévéré. Donc voici comment Jésus a prié. Mais maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Ce que ça a changé, pardon. On dirait un chat perché, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la première fois que Jésus n'est pas exaucé. Jésus demande, parce que cette coupe s'éloigne de lui, et vous connaissez la fin de l'histoire. Il l'a quand même bu, cette coupe. Jésus prie et obtient un non de la part de Dieu, de son Père. Et là, vous dites, ah, on n'est pas les seuls. Alléluia. Jésus a reçu un non en pleine face au moment le pire de sa vie. Mais qu'est-ce que ça a changé du coup? En quoi le fait de prier a changé quelque chose? Pour se rendre compte, on a besoin de faire une petite comparaison entre Pierre, entre les disciples, mais surtout Pierre et Jésus. On va juste retraverser quelques petits versets. Revenons au verset 38. Il leur dit, donc Jésus dit à ses disciples, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. Restez à côté de moi. » Restez à côté de moi, ça qu'il leur dit, j'ai besoin de vous. Verset 40, il prie une première fois, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ?» Donc les amis de Jésus et Pierre notamment, là en plus il parle à Pierre directement, Jésus est déçu par ses amis. Et revenons maintenant, juste avant Gethsemane au verset 35. Pierre lui répondit, « Même s'il faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. C'est ce qui se passe. Les disciples, et notamment Pierre, font une promesse, on ne t'abandonnera jamais, Jésus. Une heure après, ils sont tous endormis, ils l'ont tous abandonné. Jésus, alors que c'était le moment le plus intense de sa vie. Et promesse non tenue. Et Jésus va expliquer pourquoi, verset 41. Il y a un truc qu'ils n'ont pas saisi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Donc là, on voit que la prière, ça nous aide à résister à une certaine tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Et là, littéralement, il est en train de leur dire, vous êtes disposés à me suivre, c'est super. Mais rappelez-vous qu'à cause de la faiblesse humaine, vous avez besoin de prière pour suivre les désirs de l'esprit. C'est ça qu'il dit. C'est super. L'esprit est bien disposé. Mais en fait, si tu pries pas, si tu vas pas chercher des forces auprès de Dieu, si t'es pas vulnérable, authentique avec Dieu, si tu vas pas chercher force et puissance dans la prière, tu vas pas pouvoir me suivre. C'est impossible. Et là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Et de quelle tentation il est en train de parler? Tous les gens vont dire que Pierre, la tentation de Pierre, c'était le reniement. Simplement. Pierre s'était promis de « Non, non, je te renierai jamais. » Jésus va lui dire « Mais en fait, si, tu vas, le coq va chanter trois fois, tu vas me renier. » Parce que Jésus savait ce qui allait se passer. Mais Pierre était sûr que non, sauf qu'en fait, il n'a pas été chercher les forces nécessaires pour ne pas céder à la tentation de le renier. Et pour Jésus, la tentation, c'était quoi? C'était d'éviter une partie de la volonté de Dieu. Ne pas boire une certaine coupe de souffrance. Et il y a deux approches différentes. C'est super intéressant quand on fait le parallèle. Jésus, c'est quoi son approche? C'est que Jésus fait preuve d'humilité et reconnaît son besoin de prier pour faire la volonté de Dieu. Pierre fait preuve d'orgueil en négligeant son besoin de Dieu. Et c'est là où il y a un résultat différent. Il y a un résultat différent. Et on voit que Jésus commence à porter un bon fruit. Verset 42, la deuxième prière. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » C'est passé de « s'il est possible » à « s'il n'est pas possible ». C'est juste quelques lettres en plus qui font toute la différence. Et on voit l'inclinaison de cœur. On voit que son côté humain, il commence à accepter « Ok, ma prière n'est pas répondue, je l'accepte. » J'accepte, mais j'ai encore besoin de prier. Parce que là, c'est la deuxième prière. Il va encore rester peut-être peut-être plusieurs minutes, peut-être plusieurs heures, on ne sait pas. Sa prière est passée de « s'il est possible » à « s'il n'est pas possible ». Et on voit qu'un des premiers buts de la prière, ce que la prière change, c'est qu'en fait la prière t'aide de plus en plus à t'aligner avec la volonté de Dieu. La prière, ce n'est pas juste un moyen d'avoir des bénédictions, d'avoir des faveurs, et puis c'est bon, Dieu prend soin de nous. Donc il faut demander ce que vous demandez, vous le recevrez. Mais on oublie souvent une petite partie justement. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance à la volonté de son Père. On l'a tous vécu, peut-être tu le vis encore en ce moment. Mais tu as besoin de prier. Parce que la prière, elle t'aide à t'aligner, puis à accepter. Et en fait, c'est pas juste que tu acceptes et puis tu es comme un esclave où tu vois. Non, Jésus, après, le fruit qui a amené après, c'est quoi? C'est qu'il a traversé toutes les 12 dernières heures de sa vie. Ça a été dur. Il a souffert. À la croix encore, il a encore ses émotions de « Mais mon Dieu, où est-ce que tu es ?» Mais il est allé au bout. Il est allé au bout. Donc la prière, non seulement elle t'aide à te conformer à la volonté de Dieu, mais elle te donne des forces pour des épreuves que tu auras plus tard. Un de nos profs, l'onction d'application, c'est du travail. Tu t'assois, tu prends des livres, t'étudies, tu lis, tu pries, tu lis, tu pries. C'est 10% d'aspiration et 90% de transpiration. Avancer dans les problèmes financiers, pour avancer dans les problèmes de couple, ou avancer dans les problèmes financiers, pour avancer dans les problèmes de couple, ou parentalité, ou peu importe le problème que tu as, je pense que la prière est une. T'es authentique, j'ai dit là, j'ai besoin d'aide. SOS, viens m'aider. Je vais appeler les musiciens à revenir. Voici ce que la prière de Jésus a changé. Il n'a pas été exaucé, mais il a accompli la volonté de Dieu. Et parfois, ce qu'on demande, ce que Jésus a demandé, ça n'a pas été exaucé, mais parfois, c'est des choses que Dieu nous demande de persévérer pour que ce soit exaucé. Il ne faudrait pas faire dire au texte, ok, ça veut dire qu'on va avoir toutes les coupes de souffrance auxquelles on va. Et on va faire comme Jésus. On va amener notre sujet, on va aller au vif du sujet, on va pas être politiquement correct avec Dieu, on va juste dire, ok, Seigneur, s'il est possible, on va amener notre sujet. Le s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, on va amener notre coupe ce matin et on va faire comme Jésus. Peut-être que Dieu va répondre. Peut-être qu'il va répondre pas de la manière dont on s'attendait. Mais juste gardons en tête, Jésus a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Je vous propose qu'on prenne cette coupe et symboliquement, on lève la main et on dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de ma fille, de mon fils, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de mon mari, de ma femme, de mon voisin, s'il est possible. On vient plaider et je vous propose juste dans votre cœur, pas forcément à voix haute, de venir sortir les différentes émotions qu'il y a aussi. On va prendre ce chant tel que je suis. On va le chanter et si tu veux juste écouter ces paroles et on le connaît, mais tel que je suis, je viens à toi. Ça veut dire tel que je suis, je viens avec mes peurs, mes doutes comme Jésus l'a fait. Et je vous propose qu'on prenne ce chant et qu'on sorte toutes les émotions qu'on a auprès de Dieu et juste qu'on ose se déverser sur lui. Qu'on ose se déverser comme Jésus l'a fait. Et c'est en persévérant dans cette authenticité que Dieu peut faire une œuvre en nous, que Dieu va être sincère aussi avec nous. C'est en faisant tomber le masque de « on va s'humilier, j'ai besoin de toi, là j'en peux plus, t'es où ?» que Dieu va nous répondre. On ne sait pas comment, mais Dieu va faire son œuvre, c'est certain. Dieu a fait son œuvre en Jésus et Dieu va faire son œuvre en nous. On croit que Dieu est un Dieu qui agit, on croit que Dieu est un Dieu de consolation, un Dieu qui fait avancer, un Dieu qui transforme. Et ce matin, on va le proclamer en étant authentique avec Dieu. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ton exemple. Te remercier pour ce moment de Gethsémané où tu t'es humilié, où tu as été vulnérable, tu as été authentique. Et ça nous donne tellement un exemple sur comment être sincère avec Dieu. Tu n'as pas peur d'écouter tout ce qu'on ressent. Et ce matin, on veut venir auprès de toi. Pendant ce chant, on va prendre un temps chacun personnellement. On va se déverser sur toi. Et je suis sûr que tu es en train de te réjouir parce que tu prends plaisir à recevoir nos requêtes. Tu prends plaisir à ce qu'on vienne plaider auprès de toi. Alors reçois nos prières ce matin, au nom de Jésus. Amen.
Tel que je suis sans rien.
Nous sommes à toi, Père, parce que c'est toi qui nous as appelés, Jésus. À toi la louange et la gloire. On ne va pas terminer un moment comme ça sans donner l'opportunité peut-être à celles et ceux qui ont été interpellés ce matin de pouvoir être encouragés par des frères et sœurs plus matures. Et on a pour ça un service d'écoute et de prière et qui vont aller se placer sur ma gauche dans quelques instants. Donc si vous avez été questionné, il y a quelque chose qui vous travaille ou peut-être même juste une colère, un truc que vous ne comprenez pas, vous avez besoin de le dire à quelqu'un, il y a des gens plus spirituels, plus en tout cas matures, qui pourront aussi vous accompagner dans votre émotion à ce moment-là, puis demander à la grâce de Dieu de vous entourer. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche à chacun, chacune, que le Seigneur vous bénisse, et à la semaine prochaine pour la grande assemblée et dans les groupes de maison pour celles et ceux qui fonctionnent encore pendant l'été. Bon dimanche.